question du procès-verbal de notre séance du 19 décembre, avec les ajouts, on reviendra dessus au moment du vote, mais de la bande-son proposée par Madame Lagoutte. Le second, une motion pour s'opposer au stockage de CO2 sur le territoire. Voilà, donc ça, ce sont les documents qui vous ont été distribués, que vous avez trouvés sur table. Je vais donc procéder à l'appel. Nolwenn Le Bouter est donc présente. Alban Lancel. Présent. Philippe Duc. Présent. Serge Hamelin. Présent. Edith Lyon. Présent. Dany Farwa. Présent. Chantal Regnault. Présent. Angélique Rapaille. Présent. Armand de Maigret. Présent. Jules Nouganouga. Présent. Fabrice Houllier. Nathalie Pieusergue est absente, excusée, elle avait le civos ce soir et elle m'a donné son pouvoir. Louis Tente Marquez est absent, excusé, représenté par Philippe Duc. Valérie Jacqui, Sylvie Poirier, présent. Frédéric Bruno, présent. Stéphanie Degand est absente, excusée, représentée par Monsieur Lancel. Nîmes Cassiger est absente, excusée, elle est représentée par Monsieur Hamelin. Martial Dich, présent. Susanna Martinet, présent. Mahmoud Gunner est absent, excusé, représenté par Madame Léon. Anne-Laure de Belleville est absente, excusée, représentée par Madame Rapaille. Sylvie Galochet, Michel Biou. Mohamed Kerbache est absent, excusé, représenté par Madame Lagoutte. Guy Bertrand de Chicaya, Clotilde Lagoutte, Julien Boudet, présent. Thomas Lecomte est absent. Je vous remercie. Avant de rentrer dans nos délibérations, ah oui, secrétaire de séance, merci. Donc, Madame Rapaille est volontaire, si personne ne s'oppose à ce que Madame Rapaille assume la fonction de secrétaire de séance. Merci. Nous tenions, comme nous l'avons fait dans des séances de conseil municipal précédentes, à rendre hommage en ce début de conseil à Madame Paule Nourry, qui nous a quittés il y a quelques jours. Elle a longtemps siégé dans ce conseil. Elle a été conseillère générale du canton de Nangy pendant plusieurs mandats. Et donc, pour cet hommage, je vais donner la parole à notre doyen, Armand de Maigret, qui a longtemps siégé à ses côtés.
Oui, comme M. Biou, qui était déjà conseiller municipal à ce moment-là, s'en souvient, j'ai beaucoup travaillé avec Paule Nourry entre 1995 et 2001 dans ce qui était le groupe d'opposition réduit à l'époque à 5 membres. Bien entendu, chacun y tenait sa place, mais Paule, en plus de ses compétences de comptable, était la plus présente sur le terrain, en particulier auprès des anciens combattants, puisque son mari était président de la FNACA, mais pas seulement. Encore plus après qu'elle a pris sa retraite. D'un contact facile, elle était donc devenue la plus populaire de notre groupe, ce qui lui a d'ailleurs valu quelques attaques injustifiées auxquelles elle a peut-être attaché trop d'importance, car sans un aspect vigoureux et joyeux, elle cachait une très grande sensibilité. Quoi qu'il en soit, donc elle fut à son tour en 2001 tête de la liste d'opposition. Elle fut également, comme j'avais été, battue par M. Pasquier, et avant nous, Marcel Recure et José Villard, mais elle améliora le score de l'opposition et obtint de ce fait un siège de conseiller municipal de plus. Mais surtout, après le décès subi et imprévisible de Michel Dromini, récemment élu conseiller général, elle se présenta à sa succession à la demande expresse, et j'en suis témoin, du président du Conseil général, Jacques Larcher. Elle fut élue contre M. Pasquier et elle devait rester conseillère générale jusqu'en 2015. Entre-temps, Elle était devenue en 2008 première adjointe à la mairie de Nangy de M. Delannoy, qui était moins disponible qu'elle, étant encore en activité, et qu'elle avait donc souvent la tâche de remplacer, notamment dans les commissions départementales. Mais sur cette période-là, d'autres ici présents se souviennent au moins aussi bien que moi de son action. Ce que je voudrais dire pour terminer, parce que c'est important de nos jours, c'est que cette longue existence a été caractérisée, je crois, par la fidélité à ses convictions.
Je vous propose de nous lever pour une minute de silence. Merci Armand. Alors, la première délibération de ce soir concerne le procès-verbal de notre conseil du 19 décembre. Vous vous souvenez, il y avait des propos croisés, des propos qui n'avaient pas été enregistrés sur la bande, donc qui ne pouvaient pas être retranscrits. Donc, Madame Lagoutte nous a fourni une bande son enregistrée par ses propres moyens et a donc transmis la transcription. Et donc, nous vous proposons l'adoption, parce que dans un premier temps, les services ont d'abord réécouté la bande. Il n'y a rien à faire sur la nôtre, on n'entend rien. Donc ça concerne les pages 103 et suivantes du procès-verbal. Et donc nous vous proposons l'adoption de ce procès-verbal avec les ajouts. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que... Oui ?
Non, pas de questions. Bien sûr, nous voterons pour avec les ajouts. Mais peut-être qu'il faudrait revoir si une société, c'est ça qui vous loue le matériel.
Je pense surtout qu'il faut être vigilant et bien parler dans le micro. Non, ce n'est pas une société qui loue le matériel. Les micros, ce sont les nôtres. La société fait la transcription. Voilà. Je crois que le point de vigilance, c'est surtout de parler à tour de rôle, de s'écouter et de bien prendre le micro pour prendre la parole.
Parce que sur les propos croisés, Madame Lyon, par exemple, n'apparaissait pas. Et nous, sur notre téléphone, on l'entendait aussi. Donc, je me disais peut-être que c'est les...
Un téléphone.
Vous voyez là, vous avez parlé sans vous approcher du micro, monsieur Billou.
Voilà, c'est vrai
le téléphone l'aurait enregistré, je suis sûr.
Bon, en tout cas, oui, bien sûr, nous voterons pour avec les modifications.
Mais la bande son est sur le site. Hein. Est-ce que quelqu'un s'oppose ? S'abstient ? Je vous remercie. Donc nous passons maintenant à l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance en date du 5 février. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Pas de questions ? Donc je soumets au vote. Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Troisième point à l'ordre du jour, il s'agit de la suppression d'un poste d'adjoint au maire. L'article L2122-15 du CGCT dispose que la démission du maire ou d'un adjoint est adressée aux représentants de l'État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'État dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leur successeur. Par courrier en date du 5 février 2025, adressé à Monsieur le préfet de Seine-et-Marne, Madame Stéphanie Degand a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'adjointe tout en restant conseillère municipale. Sa démission a été acceptée par Monsieur le préfet de Seine-et-Marne le 21 février 2025. Et dans ce contexte, il est proposé au Conseil municipal de décider de supprimer le siège de troisième adjoint au maire laissé vacant, sachant que les autres adjoints remontent d'un cran dans l'ordre du tableau, de fixer le nombre d'adjoints au maire à 7 au lieu de 8, de dire que le tableau du conseil municipal sera modifié en conséquence, de dire que les indemnités suivront les règles préalablement établies dans la délibération numéro 2021 octobre 136 du 22 octobre 2021 et de dire que les imputations budgétaires sont inscrites au budget de l'exercice en cours. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Madame Lagoutte.
Donc juste pour vous informer que nous ne prendrons pas part au vote concernant ce poste d'adjoint, en tout cas cette suppression. C'est tout. Enfin, on peut quand même noter que c'est la deuxième fois dans ce mandat qu'un adjoint quitte ses fonctions et la troisième fois qu'un élu se retire de ses responsabilités. Donc ça interroge un peu. Donc comme l'organisation interne de votre majorité ne nous concerne pas, nous prenons acte sans participer au vote.
Très bien. Donc je le soumets au vote. Qui s'oppose ? En fait, j'avais prévu d'en dire, mais après le vote. Mais si vous me spoilez. Mais allez-y, Armand, je vous en prie.
Troisième fois qu'un élu de la majorité démissionne, mais c'est la quatrième fois qu'un élu démissionne, puisqu'il y en a eu également un chez vous.
Et M. Durox aussi. Oui. Oui, oui.
Nous n'avions pas de responsabilité.
Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, je voulais, pour compléter cette délibération, préciser que les missions exercées auparavant par Mme Lyon sont donc réparties. Pardon, par Mme Degan, excusez-moi.
C'est pas parce qu'elle est malade, hein ?
Je ne sais pas pourquoi. Donc sont donc répartis pour la partie espace public, donc c'est Monsieur Hamelin, et la partie travaux, Monsieur Houllier. Je les remercie d'accepter cette charge supplémentaire. Je voulais aussi préciser que cette suppression n'a absolument, ne doit surtout pas être interprétée comme une volonté de minimiser l'importance de ces délégations qui concernent les travaux, ni de minimiser le travail qui a été réalisé, ni celui qui reste encore à faire. Et je voudrais exprimer toute ma gratitude à Stéphanie Degan pour son implication, son investissement tout au long de ces 5 années et la remercier chaleureusement pour le travail accompli, toujours au bénéfice de nos concitoyens. Pour la délibération suivante, il s'agit du vote des taux de la fiscalité locale et je vous laisse la parole, Monsieur Lancel.
Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Effectivement, pour cette délibération, on va parler des taux de la fiscalité locale pour 2025. Donc le montant des bases d'imposition notifié par l'État le 12-59 en date du 21 mars 2025 nous permet d'indiquer les taux suivants. Donc l'équipe municipale décide de reconduire les taux d'imposition au titre de l'année 2025 sans augmentation et détaillé comme suit. La taxe foncière bâtie 47,50%, taxe foncière non bâtie 65,23%, la taxe d'habitation sur la résidence secondaire 19,67%. Il est précisé que l'État 12-59 fait apparaître le montant attendu des recettes fiscales à hauteur de 5 049 746 euros. Les produits attendus ont été estimés sur le budget primitif à 5 048 631 euros. Par conséquent, un ajustement de 1 115 euros est inscrit au compte 7311 sur le PS 2025. Pour information, la commune a été notifiée d'une baisse de la DCRTP, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, puisque le montant affiché sur l'État 1259 pour Nangis en 2025 est de 443 357 euros contre 543 205 euros en 2024. Par conséquent, malgré la hausse significative des bases entre 2024 et 2025, avec un produit attendu de 5 049 746 euros contre 4 977 640 euros en 2024, la progression des recettes fiscales est modérée. Avez-vous des questions ? Peut-on mettre au vote ? Monsieur ?
Mais je crois que ça intéressera peut-être tout le monde. Combien y a-t-il de résidences secondaires à Nangy ?
Très peu. Très très peu.
Je crois savoir qu'il y en a 3 et donc le taux de 19,67%, qui n'est pas négligeable, s'applique à 3 familles.
Oui, c'est très faible, Armand, vous avez raison. Mais on pourra faire le calcul, en fait. Vous leur donnera. Si vous voulez bien noter, Catherine, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres questions ? On peut mettre au vote. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.
C'est toi encore ? C'est la subvention au COS, donc c'est RH.
Effectivement, c'est les ressources humaines ou humaines. Donc c'est l'attribution effectivement de la subvention communale à l'association Comité des œuvres sociales de Nangy au titre de l'année 2025. Cette délibération a pour objet de proposer l'attribution d'une subvention de fonctionnement allouée bien entendu pour 2025 à une association nangicienne. Pour notre partie, bien sûr, RH. Donc, cette association, le COS, a effectivement fait une demande de subvention de fonctionnement pour 22 957,38 euros et a complété le dossier correspondant. Par ailleurs, concernant les dispositions quant au respect des principes de la République et l'application du décret 2021-1947, pris pour l'application de l'article 10, trait d'union 1 de la loi de 2321 du 12 avril 2000. 12 avril, c'est une date importante. Pour M. Ollier, et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'agréments de l'État, lesdites associations ont désormais pour obligation de signer un contrat d'engagement républicain pour pouvoir percevoir les subventions de la commune. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de décider d'allouer pour l'année 2025 une subvention de fonctionnement d'un montant de 22 957,38 euros. Dire que la subvention sera versée sous condition de signature du dit contrat précédemment indiqué et dire que la dépense est inscrite au chapitre 65 du budget de l'exercice 2025 en section de fonctionnement. Avez-vous des questions ? Madame Lagoutte.
Juste pour préciser qu'il n'y aura qu'une voix, parce que M. Carbache ne participe pas au vote.
C'est sur la suivante.
On n'est pas en boxing, mais ce n'est pas grave. On a anticipé. D'autres questions ? On peut mettre au vote ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie.
Une précision pour répondre à votre question, Armand. Données INSEE 2017, 38 résidences secondaires à Nangy.
Minoritaire.
Délibération suivante, elle concerne l'attribution d'une subvention à Nangy Boxing. Je vais laisser la parole à Madame Poirier. Et donc, effectivement, Monsieur Kerbache ne prendra pas part au vote. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs délibérations. On aurait pu en faire une seule pour toutes les subventions exceptionnelles, mais on l'a scindée pour que M. Kerbache puisse prendre part au vote des autres subventions.
Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Alors, cette délibération a pour objet l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Nangy Boxing au titre de l'année 2025. voilà. L'association Nanger Boxing a effectivement fait une demande de subvention exceptionnelle pour un montant de 2000 euros pour l'organisation du 4e challenge Hassan Karbash et a complété le dossier correspondant. Par ailleurs, concernant les nouvelles dispositions quant au respect des principes de la République et l'application du décret numéro 2021-1947, pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques et de l'agrément de l'État, lesdites associations ont désormais pour obligation de signer un contrat d'engagement républicain pour pouvoir percevoir les subventions de la commune. Monsieur Karbash, faisant partie de l'association Nanger Boxing, ne prendra pas part au vote. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de décider d'allouer pour l'année 2025 une subvention exceptionnelle d'un montant de 2000 euros à l'association Nanger Boxing dans le cadre de l'organisation du 4e challenge Hassan Karbash. Dire que la subvention sera versée sous condition de signature d'un contrat d'engagement républicain conformément à la loi numéro 2021-1109 et au décret numéro 2021-1947. Dire que la dépense est inscrite au chapitre 5 du budget de l'exercice 2025 en section de fonctionnement. Ah, pardon. Oui, chapitre 65. Pardon.
Merci, Madame Poirier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci. Juste une précision, ce n'est pas parce que M. Karbash fait partie de l'association, puisqu'on peut être adhérent. C'est bien parce qu'il est membre du conseil d'administration. On continue sur les subventions exceptionnelles. Madame Poirier.
Alors, cette délibération a pour objet de décider des subventions exceptionnelles allouées au titre de l'année 2025 aux associations nangiciennes. Les associations mentionnées sont celles qui ont effectivement fait une demande de subvention exceptionnelle et complété le dossier correspondant. Par ailleurs, concernant les nouvelles dispositions quant au respect des principes de la République et l'application du décret numéro 2021-1947, pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'État. Lesdites associations ont désormais pour obligation de signer un contrat d'engagement républicain pour pouvoir percevoir les subventions de la commune. Il est proposé au conseil municipal de décider d'attribuer une subvention exceptionnelle aux associations ainsi qu'il suit. Défense des chats libres, montant proposé 1 000 euros. Orchestre d'harmonie, 7 500 euros. Et total des subventions, 8 500 euros. Dire que les subventions seront versées sous condition de signature d'un contrat d'engagement républicain conformément à la loi numéro 2021-1109 et au décret numéro 2021-1947. Dire que la dépense est inscrite au chapitre 65 du budget de l'exercice 2025 en section de fonctionnement.
Merci, Madame Poirier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci. Nous passons donc à la délibération 8 qui concerne l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention à la restauration scolaire et je donne la parole à Madame Lyon.
Merci Madame la maire. Vous ne m'entendez pas. Eh bien vous allez mieux m'entendre là. Alors. Merci monsieur. Approbation de l'avenant numéro 1 à la convention. Si c'est bon. Approbation de l'avenant numéro 1 à la convention d'accueil à la restauration scolaire numéro 2016 EDUC MK 229 à partir du 14 avril 2025. La communauté de communes de la Brie-Nangicienne assure la gestion des accueils de loisirs les mercredis et les vacances scolaires. La commune de Nangis, elle, accueille au restaurant municipal les enfants inscrits aux accueils de loisirs de Nangy. Dans le cadre de ces accueils, les déjeuners et les goûters sont préparés et servis par les agents du restaurant municipal de la ville de Nangy. La convention initiale numéro 2016 EDUC MK 229 du 14 novembre 2016 intègre le coût des repas dont le calcul prend en compte le coût global de préparation, incluant l'achat des produits alimentaires, l'entretien, les investissements, les fluides et le personnel, ce qui n'est pas le cas des goûters, dont le montant fixé à 0,40 centimes d'euros par goûter n'est pas assujetti aux variations des frais inhérents à la préparation. Aussi, de ce fait, compte tenu de l'évolution des coûts de fonctionnement des bâtiments impactant les services municipaux, notamment la restauration scolaire, eau, électricité, chauffage, denrées alimentaires et matières premières, il convient de réviser le coût du goûter facturé à la communauté de communes de l'Abri Nangicienne par voie d'avenant. En effet, le tarif facturé par goûter est de 0,40 centimes d'euros depuis 2016 et il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la fixation du nouveau tarif pour 2025 à 0,80 centimes d'euros par goûter distribué et de mettre en place une formule de révision du prix à chaque rentrée scolaire à compter du 14 avril 2025. Dans ce contexte, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 de la convention d'accueil à la restauration scolaire numéro 2016 EDUC MK 229 du 14 novembre 2016 avec la communauté de communes de la Brie-Nangicienne dans le cadre des activités périscolaires, d'approuver l'application du tarif de 0,80 centimes d'euros par goûter distribué dans le cadre des activités d'accueil de loisirs assurées par les services de la communauté de communes de la Brie-Nangicienne, de dire que ce tarif sera applicable à compter du 14 avril 2025, de dire que le tarif sera révisé chaque année à la rentrée scolaire de la façon suivante, sur l'indice INSEE juillet année N par indice INSEE juillet année N-1, on établit un ratio applicable au tarif de la rentrée de l'année N, prix année N multiplie N-1 par le ratio, ce sera le nouveau tarif. De dire que les recettes seront inscrites au budget des exercices correspondants en section de fonctionnement.
Merci Madame Léon. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, Madame Lagoutte ?
Oui, merci. La délibération que vous nous présentez prévoit une hausse de 100%. Donc c'est particulièrement brutal, d'autant qu'on sait que l'inflation...
Depuis 2016.
En fait, c'est le coût réel, puisque ouais. Vous l'aurez bien compris. Mm-hmm. Le tarif n'a pas évolué depuis 2016. Et donc il n'y a jamais eu d'augmentation qui prenait en compte les coûts de l'inflation, etc. Donc c'est, j'allais dire, quasiment une forme de subvention déguisée qu'a versée la commune de Nangy à la communauté de communes en facturant un coût du goûter en deçà du coût réel. Oui.
Enfin, vous êtes là depuis 2020, donc vous auriez pu y penser. Bah, c'est vous qui êtes là depuis 2020, vos affaires. Donc, c'est brutal. Je pense que 30% ça aurait été peut-être plus raisonnable.
C'est-à-dire que vous auriez trouvé normal que la ville continue à subventionner la communauté de communes sur le coût des goûters. C'est ça que vous dites.
On vous propose 30%.
Non, mais nous, on vous propose 100%. Le coût réel, en fait. Donc, c'est juste c'est le coût brutal. Réel. C'est ce que ça nous coûte.
Oui, mais ça fait quand même 100% d'augmentation.
Oui, mais c'est le coût pour la collectivité.
Qu'importe. Donc, on votera contre cette augmentation.
Donc, vous voudriez que la ville de Nangy supporte la charge des goûters et verse une forme de subvention en nature.
C'est vous qui êtes aux affaires, Madame Le Bouquet.
Oui, ben c'est bien pour ça.
C'est vous qui êtes aux affaires.
Vous savez, il y a beaucoup de dossiers à étudier. Donc, on gratte, on creuse, on trouve des choses. Et quand on trouve, on rectifie.
Ben,
Donc là, il s'agit uniquement de rectifier, puisque entre 2016 et 2020, le coût n'avait pas évolué.
Oui, il n'y avait depuis pas les 2020, mêmes hausses. Il n'y avait pas le même hausse entre 2016 et
Il n'y avait pas d'inflation entre 2016 et 2020 ?
Oui, tout à fait, mais ça fait 5 ans que vous êtes élu. Donc,
Oui. Mais on retrouve des choses encore plus anciennes,
très bien,
sur lesquelles vous n'étiez pas revenu. Des choses qui datent de 2010, par exemple. Vous avez eu tout le loisir, vous avez eu 10 ans pour revenir dessus. Et pour autant, ce n'était pas le cas. On en reparlera.
Mais bon.
La collecte des déchets pharmaceutiques dans les pharmacies. Mais on aura peut-être ou pas l'occasion de revenir dessus.
Je ne vois pas le rapport avec la délibération.
En tout cas, la précision, c'est simplement que là, il s'agit de revenir au coût, de s'ajuster au coût réel pour la collectivité et donc de faire payer par la communauté de communes le coût réel des goûters, qui comprend la fourniture, la livraison dans les locaux par les agents, etc. C'est tout. Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.
Moi, je vais juste me mettre... Je vais juste faire une analogie avec les accueils de loisirs. Nous sommes revenus depuis 2020 sur les prix, puisque à un moment, la ville de Nangis subventionnait la communauté de communes en compensation du prix relativement élevé de la communauté de communes. Nous apportions, je parle sous le contrôle d'Edith, hein, bien entendu, un montant pour compenser la différence de prix. Nous sommes revenus dessus. Effectivement, depuis 2020, nous avons fait ça. Ça, c'était passé à travers les mailles du filet. Et je dirais, comme le dit Madame le maire à juste titre, on ne matraque pas l'intercommunalité, on fait juste payer le juste prix, c'est tout.
Délibération 9. Il s'agit de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour les accueils de loisirs sans hébergement. Accueil adolescent. Madame Lyon.
Alors, délibération 08, approbation de l'avenant numéro 1. Je recommence, excusez-moi. C'est la 09. C'est la 09. Oui, médicaments. Convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne pour les accueils de loisirs sans hébergement, accueil adolescent. La présente délibération a pour objet d'approuver la signature de la convention d'objectifs et de financement relative à la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement, ALSH, accueil adolescent, de la Caisse d'allocation familiale, CAF, de Seine-et-Marne. En effet, dans le cadre de leur politique en faveur du temps libre des enfants et des jeunes, les CAF soutiennent le développement et le fonctionnement des équipements de loisirs sans hébergement pour les âges de 12 à 17 ans, des accueils de scoutisme sans hébergement et des accueils de jeunes déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse et des sports. La nouvelle convention accueil adolescent proposée par la CAF de Seine-et-Marne vise à identifier et à renforcer la mobilisation spécifique mise en œuvre par les collectivités auprès de nos adolescents. Dans ce cadre, les subventions auxquelles peuvent prétendre les accueils de loisirs sans hébergement, accueil adolescent, sont les suivantes. La subvention accueil adolescent, attribuée aux équipements déclarés auprès des services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et au sport, et répondant aux critères d'éligibilité de la subvention accueil adolescent. Le bonus territoire CTG. Alors pour les néophytes, CTG, ça veut dire convention territoriale globale, est un complément à la subvention aux accueils de loisirs sans hébergement extrascolaire et constitue une aide au fonctionnement et au développement pérenne et pluriannuel destiné aux services implantés sur les territoires soutenus financièrement par les collectivités, attribution sous différentes formes, versement d'une subvention, mise à disposition de locaux à titre onéreux. Et il y a ensuite le complément inclusif pour les accueils de loisirs sans hébergement, permet de renforcer l'accueil des enfants et adolescents en situation de handicap et de majorer la subvention accueil adolescent par heure d'accueil réalisée uniquement pour les enfants bénéficiaires de l'allocation d'éducation d'enfants handicapés. L'ADODOM s'y annexé vient préciser les modalités de calcul à l'appui du barème en vigueur. Afin de bénéficier des dispositifs précités, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement subvention accueil d'adolescents, bonus territoire CTG et complément inclusif 2025-2026 avec la CAF de Seine-et-Marne telle que présentée, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention de la DOM, les annexes ainsi que tout document y afférent. De dire que les recettes correspondantes sont inscrites au budget des exercices 2025 et 2026. Vous avez en pièce jointe les modalités de calcul de la subvention. Subvention accueil adolescent, bonus territoire CTG, complément inclusif.
Merci Madame Lyon. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Donc je soumets au vote qui s'oppose à cette délibération, qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération suivante concerne le CRTE, le contrat de réussite pour la transition écologique de la Brie-Nangisienne et la convention qui nous lie. Monsieur Lancel.
Merci Madame le maire, effectivement aussi. Donc délibération numéro 10. Le CRTE, c'est la convention annuelle financière qui permet d'avoir des engagements avec l'État. Donc cette convention vise à approuver, cette délibération vise à approuver la convention financière annuelle 2024 qui est relative au contrat pour la réussite de la transition écologique de la Brie-Nangisienne. Cette convention, signée chaque année avec le préfet de Seine-et-Marne, détermine les engagements financiers des communes et de la communauté de communes de la Brie-Nangisienne pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le dit CRTE. C'est un document qui est disponible et qui a été signé depuis un petit moment. Donc ce CRTE a été signé le 18 juillet 2022. Il accompagne la réalisation de projets de transition écologique à l'échelle du territoire. On conclut chaque année avec le préfet de Seine-et-Marne une convention financière qui est relative au CRTE, une liste d'actions engagées pour l'année 2024, et on précise des modalités de financement incluant les contributions de l'État, des collectivités locales et d'autres partenaires. Pour la commune de Nangy, une opération est ciblée permettant d'obtenir une subvention au titre du fonds vert à hauteur de 34,85% du montant hors taxe des travaux pour la rénovation énergétique de l'école maternelle du groupe scolaire Château, soit 396 222 euros. Étant précisé que pour cette opération, vient s'ajouter la subvention suivante, l'État, la DETR 2024, pour un montant de 298 673 euros, soit 26,27%. Ainsi, on demande au Conseil municipal d'approuver la convention financière annuelle 2024 qui est relative au contrat pour la réussite de la transition écologique de la Brie-Nangisienne, de dire qu'une opération est ciblée pour la commune de Nangy, permettant d'obtenir une subvention au titre du fonds vert à hauteur de 34,85%. Du montant hors taxe des travaux, soit 396 222 euros, sachant qu'on a aussi la DETR 2024 pour 298 673 euros, soit 26,27%. D'autoriser Madame le maire à signer la dite convention, ainsi que tous les documents afférents à cette affaire avec le président de la Brie-Nangisienne et le préfet de Seine-et-Marne. Avez-vous des questions ? Pas de questions, je peux mettre au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Tu veux faire l'annonce ? Ok, donc délibération numéro 11, création et suppression de postes. Bon, on ne va pas refaire le débat habituel, création et suppression. Bien entendu, on a des mouvements de personnel que vous n'ignorez pas, donc soit pour des retraites, des mutations, disponibilité. Et aussi, pour faciliter ces recrutements et leur classement, il est donc nécessaire de créer un poste de rédacteur à temps complet, un poste d'auxiliaire de puériculture de classe supérieure à temps non complet, à raison de 28 35e, un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet, un poste d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle à temps complet. Il est également nécessaire de supprimer un poste d'agent social principal de seconde classe à temps complet, deux postes d'agent social à temps complet, un poste de chef de service de police municipale à temps complet, deux postes d'animateur à temps complet. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver les créations et suppressions de postes énumérés ci-avant. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Je peux mettre au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Oui, délibération numéro 12, le tableau des effectifs que nous voyons annuellement. Il me semble d'ailleurs, Florent, que vous avez adressé l'organigramme. C'est dans les diverses, mais je le précise là pour le public. Donc vous avez le tableau des effectifs qui doit vous être présenté, à mon avis, à l'écran qui est derrière. Donc le tableau des effectifs est actualisé en principe chaque année et recense les effectifs budgétaires d'une part et les effectifs réellement pourvus d'autre part. Pour ma information, la dernière actualisation, elle remonte au 21 mars 2024. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire. Ce que l'on peut vous dire, je vais le faire par filière si vous le voulez bien. Filière administrative, nous avons en effectif budgétaire 76 postes, 48 de pourvus, dont 3 en contractuel. Vous noterez quand même dans le tableau que vous avez probablement dû étudier une baisse des contractuels en favorisant le nombre de titulaires. En filière technique, effectif budgétaire 101 pour 61 pourvus. Pour la partie filière sportive, donc 9 en effectif budgétaire, 3 pourvus. En filière culturelle, 12 en budgétaire, 3 pourvus. En filière médico-sociale, 25 budgétaire, 17 pourvus. En filière police municipale, 8 au budget, 3 pourvus. Et enfin, en filière animation, 31 en budgétaire, 13 en pourvus, soit 262 qui sont en effectif budgétaire, 148 de pourvus. En contractuel sur emploi permanent, vous constatez 21 effectifs budgétaires pourvus. Nous avons notre chef de projet PVD qui est présent. Nous avons 4 effectifs pour les parcours emploi compétences pour le moment qui ne sont pas pourvus. Voilà. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Si, Madame Lagoutte.
Oui, peut-être une intervention sur le tableau que nous avons étudié. Donc depuis 2024, la situation continue à se dégrader. Nous avons encore perdu un agent de la fonction publique cette année, ce qui s'inscrit dans la tendance de réduction des effectifs qui dure depuis votre élection. Les contractuels sont restés stables depuis 2020. Alors si l'on remonte à 2020, nous étions 183 agents. Et il n'y en a plus que 148 aujourd'hui en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux, soit une perte nette de 35 agents, ce qui représente cette année une diminution de 19,13%. Donc nous tenons à souligner la réduction drastique des nombres de cadres. Les cadres A sont passés de 15 à 7 et ceux de catégorie B de 22 à 17. La baisse des effectifs, notamment parmi les cadres, empêche souvent d'assurer une veille juridique suffisante. Et du coup, la commune s'est vue contrainte de recourir de plus en plus à des études et aux conseils externes, ce qui a engendré, sur d'autres lignes budgétaires, des coûts supplémentaires. De plus, le savoir-faire local s'est quand même réduit considérablement, car presque la moitié des agents de la collectivité ont quitté leur poste depuis 2020. Et cette année, on voit encore le départ de la directrice des ressources humaines, qui avait pourtant été nommée DGA, celle du service culturel, nous l'avons appris, et nous venons d'apprendre le départ de votre directrice des finances. Ainsi, tous les directeurs de service en poste en 2020 sont partis, puis certains de ceux que vous avez embauchés, souvent ne supportant plus les orientations que vous les contraignez à mettre en œuvre. Merci.
Merci Madame Lagoutte. Bon, je m'attendais un petit peu à ce retour. Effectivement, l'an dernier, on était à 149, ça fait un de moins. Par contre, je rappelle quand même que nous avons dans le pipe du recrutement une secrétaire assistante du service urbanisme chargée de production de médiation culturelle. deux une assistante manuelle pour deux enfants, un gestionnaire de la commande publique, un chargé de mission de préfiguration pour le centre social, un gardien de PM qui nous a quittés parce que il était plus près de chez lui, et je peux tout à fait le comprendre, un responsable des espaces publics, un maître nageur qui est pourvu, qui arrivera le 1er mai, un agent HPL à temps complet pourvu, elle arrive au 1er mai aussi, un agent HPL 24-35e, un agent HPL à temps complet encore, mais on n'a pas encore tout à fait sa date d'arrivée. Vous pouvez constater que ça fait quand même 7-8 personnes en plus, donc on est plutôt sur une phase d'augmentation du personnel plutôt qu'une diminution.
Ça sent les élections.
Ah oui. Vous avez raison, ça sent les élections. Peut-être qu'on va se mettre à balayer la rue. Voulez-vous qu'on mette... Ah pardon, allez-y.
Je voudrais ajouter un élément de réflexion. Si vous lisez un petit peu la littérature élue, la Gazette des communes ou autre, beaucoup d'articles expriment les difficultés pour les collectivités à recruter des personnels qualifiés, à recruter des cadres. J'en veux pour preuve le poste de directeur de l'urbanisme, qui est resté vacant très très longtemps. Et donc il n'y a pas de volonté municipale de ne pas recruter des cadres. Après, nous sommes dans une strate où nous ne pouvons pas offrir ce qu'offrent de plus grosses communes, avec des véhicules de service, avec un certain nombre d'avantages. Donc c'est une difficulté pour beaucoup de collectivités locales, qu'il s'agisse des communes, qu'il s'agisse des départements, ou des régions ou des communautés de communes. Tiens d'ailleurs, je voudrais poser la question, vous ne l'avez pas dit ça en conseil communautaire la semaine dernière, il n'y a plus beaucoup de cadres à la communauté de communes qui étaient là en 2020, ils sont tous partis aussi.
Nous sommes au conseil municipal.
Oui, non mais je vous avoue, je ne l'avais pas préparé. C'est juste en répondant, je me dis tiens, c'est marrant, ça n'a pas du tout été évoqué en conseil communautaire la semaine dernière, alors qu'on a passé le tableau des effectifs et qu'effectivement, les cadres de la CC, on est peut-être à 100% de renouvellement. Mais c'est juste une parenthèse. En tout cas, oui, il y a des difficultés de recrutement. Il n'y a pas de volonté de la municipalité de diminuer le nombre de postes de cadres. Simplement, il y a des difficultés de recrutement, comme dans d'autres collectivités, comme dans les entreprises. Vous discutez avec des chefs d'entreprise, ils ont également beaucoup de difficultés à recruter un certain niveau de compétences. Donc, on le déplore.
Juste pour répondre à ce que vous venez de dire, vous devez vous tromper pour la communauté de communes, parce qu'il y a un certain nombre de cadres qui sont là depuis plusieurs années, quand même. Quelques années déjà.
Peut-être Madame Véran, enfin, pas de capacité de nom des agents. Enfin, non, tout ça pour dire qu'effectivement, là, je rejoindrai le propos de Madame le maire, les difficultés de recrutement, on les connaît, hein, puisque on peut accueillir des agents qui viennent et puis qui, au dernier moment, se désistent. Non, J n'est pas forcément attractif. On a encore une fois énormément de travail à faire.
Oui, ça sera apporté à votre bilan, Monsieur Lancel.
Oui, mais je n'ai pas fini, Monsieur Tchikaya, laissez-moi gentiment finir. Jamais nous n'aurions pu imaginer la tâche qui aurait été la nôtre. Et nos agents aussi sont épuisés du travail à faire. Et c'est pour ça qu'on met du lien, qu'on essaye de faire beaucoup de choses pour les accompagner. Et ce n'est pas toujours facile. Mais je redirai encore vraiment cette chose-là. Jamais j'aurais pu imaginer, ça je parle pour moi, que la collectivité aurait autant de challenges à remonter. Je peux mettre au vote ? Qui s'abstient ? Vous pouvez sourire, monsieur Billou, vous savez, ça me fait sourire. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie.
Alors, vous avez donc pour information les décisions municipales de la numéro 2025-037 à la 110. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Très bien. Bon, alors nous passons au point suivant. Donc vous avez eu sur table un projet de motion qui concerne le projet de stockage souterrain des CO2 sur la communauté de communes et plus précisément sur le site de Grandpuy. Alors, je ne voudrais surtout pas qu'on fasse de ce sujet un sujet politique. au sens partisan du terme. C'est un sujet important qui nous concerne tous. Pour votre information, dès 2022, nous nous étions opposés à l'entreprise qui était financée par la communauté, par l'Union européenne, pour faire des sondages, pour estimer la capacité de stockage du territoire. Nous nous étions opposés à leurs études sur la commune. Malheureusement, on a découvert qu'ils s'étaient affranchis de notre autorisation et ils avaient commencé à faire leur marquage en peinture et à passer avec leur camion vibreur. Donc, ça avait été un petit peu vigoureux. Voilà. Le sénateur Aymeric Durox a interpellé le ministre délégué chargé de l'industrie sur ce projet de CO2 à l'automne. Et l'association Brie-Nangicienne Citoyenne et Solidaire organise une réunion publique sur le sujet le 25 avril. Donc c'est un sujet qui est totalement transpartisan. Voilà, je tenais à le préciser. Donc je vous propose la motion suivante. Considérant que la société Séquestra a déposé auprès de Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne une demande de permis exclusif d'exploration et de recherche en vue de créer un site de stockage souterrain du CO2. Étant rappelé que dès mai 2022, la municipalité de Nangy et son maire se sont opposés au projet en refusant notamment à la société Smart Seismic Solutions, missionnée dans le cadre du projet de recherche Pilote Stratégie, subventionné par l'Union européenne et piloté par le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, l'autorisation de procéder à des études par ondes sismiques du sous-sol de la commune de Nangy. Étant rappelé que cette opposition de la municipalité de Nangy marquait un rejet clair du projet envisagé de stockage souterrain de CO2 à Nangy et dans ses alentours, en raison d'une part des risques mal identifiés à ce stade, faute de retour d'expérience à cette échelle, qu'un tel projet pourrait avoir pour l'environnement et la qualité des eaux de la nappe phréatique, et d'autre part, du peu d'intérêt en termes économiques et d'emploi pour le territoire. Étant rappelé que la fermeture début 2025 de la société chimique LAT Nitrogène, ex-Borealis, sur le site de Grand-Puy-Pays-Carrois, et que la révision à la baisse des projets de production de biocarburants signifie que la production locale de CO2 sera considérablement réduite, de sorte que le projet de captage souterrain de CO2 concernera essentiellement du CO2 importé d'autres régions de France ou d'Europe. Le conseil municipal de Nangy, par cette motion, exprime son opposition à tout projet d'exploitation d'un site de stockage souterrain du CO2 à Grand-Puy-Bailly-Carrois et ses alentours et demande à M. le préfet de Seine-et-Marne de refuser la demande de permis exclusif d'exploration et de recherche en vue de créer un site de stockage souterrain du CO2. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Billoux?
Oui, nous adopterons bien entendu cette motion. Elle rejoint la question orale que j'avais posée lors d'un récent conseil communautaire, pas le dernier, mais l'avant-dernier. Juste une remarque et peut-être la nécessité de modifier un petit peu la rédaction. La remarque concerne effectivement la position qu'avait prise la municipalité en mai 2022. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas que le conseil municipal en ait été informé à ce moment-là, mais c'est peut-être juste une erreur de ma part.
Parce qu'en fait, c'était uniquement technique, c'est-à-dire que c'est la société qui a écrit à nos services en demandant l'autorisation de réaliser leur sondage, leur camion vibreur. Et donc, on leur a répondu non. J'allais dire, comme un vendeur de photocopieuses ou de je ne sais quelle solution qui vient sur le territoire nous proposer sa prestation, on dit oui ou on dit non, sans nécessairement en informer le conseil municipal. Voilà.
D'accord. Mais visiblement, plus pour des raisons techniques que pour des raisons de fond.
Justement. L'idée, c'était de se dire, puisque de toute façon, dans le principe, on n'est pas d'accord pour qu'il y ait du stockage, ça ne sert à rien d'estimer les capacités. D'accord. C'était ça l'esprit.
D'accord. Je pense que ça aurait été bien d'en informer le Conseil. Mais voilà, c'est juste
une
observation.
Oui, vous avez raison.
L'autre chose, je ne crois pas que la société chimique LAT Nitrogène est fermée au début 2025. C'est la production d'ammoniac qui a été arrêtée. Donc ça menace 80 emplois, mais il devrait en rester encore une centaine. Voilà, donc pour que la motion soit parfaite, je pense qu'étant rappelé que la production d'ammoniac par la société chimique Latitrogène a été arrêtée début 25 sur le site de Grandpi. Ouais, bon, voilà, c'est juste cette petite précision.
Donc je vous propose de relire le paragraphe, étant rappelé que la production d'ammoniac par la société chimique LAT Nitrogène ex Borealis sur le site de Grandpuits Pays-Carrois a été arrêtée début 2025 et que la révision à la baisse, etc. C'est bon ? J'ai écrit de toute façon. Donc je soumets au vote cette motion. Pardon, excusez-moi Armand. Micro.
L'orthographe de Pays-Carrois a changé dans l'histoire, mais il vaudrait peut-être mieux n'en utiliser qu'un. Et je crois que l'actuel, c'est OIS et pas OY comme en fin de motion.
Ah oui, il y a les deux. OIS. Donc en haut, c'est bon, et en bas, on corrige. Merci Armand pour votre vigilance. Je recherche. Frédéric, c'était toi à l'époque qui avait. Tu veux peut-être préciser ? Non. Ok. Donc je mets au vote cette motion qui s'oppose, qui s'abstient. Je vous remercie pour l'adoption de cette motion. Nous allons donc passer aux questions orales. Madame Lagoutte, je vous en prie.
Merci. Question qui concerne l'organigramme des services municipaux. Madame la maire, lors des précédents conseils municipaux, nous vous avons sollicité pour obtenir l'organigramme détaillé des services municipaux. Cette demande formulée initialement en septembre 2024, rappelée en séance en décembre 2024, réitérée en janvier 2025 par mail, puis de nouveau en séance en février 2025, vous a enfin été adressée par courrier recommandé. À ce jour, jusqu'à tout à l'heure, je crois que j'ai un mail dans ce sens, nous n'avions toujours pas reçu ce document. Vous nous aviez certes transmis un organigramme, mais il ne correspondait pas à notre demande. Il manquait le détail des agents placés sous la responsabilité de chaque service, élément pourtant essentiel pour une compréhension de l'organisation municipale. Or, conformément aux articles L300-2 et L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil d'État, ce document est communicable et encore plus légitimement aux élus municipaux dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Madame la maire, nous ne pouvons que constater un décalage persistant entre vos engagements pris en séance et vos actes qui devaient en découler. Pourquoi ce document complet ne nous est-il toujours pas transmis ? Pourquoi une telle rétention d'informations alors qu'il s'agit d'un droit élémentaire des élus ? Qu'avez-vous à cacher ? Nous attendons donc une réponse claire. Allons-nous recevoir enfin l'organigramme détaillé des services municipaux ou devons-nous saisir encore une fois le préfet ?
Alors, il n'y a aucune volonté d'obstruction ou de cacher quoi que ce soit. L'organigramme vous a été donc transmis par la direction générale cet après-midi, en fin d'après-midi. 18h, me précise Florent. Il avait été retravaillé encore ce matin. Sa diffusion a été effectivement différée, notamment en raison d'un manque de disponibilité des directeurs pour le mettre à jour complètement, puisque, comme vous l'avez fait remarquer, il y a eu des départs, il y a des arrivées. Donc, tout ça nécessite des réorganisations. D'ailleurs, avec l'arrivée récente du nouveau directeur des services techniques, du nouveau directeur éducation jeunesse, des évolutions organisationnelles ont été proposées par ces directeurs et sont en cours de validation, et ces ajustements nécessiteront une nouvelle révision de l'organigramme qui sera présentée pour avis au prochain comité social territorial, conformément aux obligations en matière de dialogue social. Donc une version actualisée sera communiquée à l'issue de cette étape. Question suivante.
Oui, Madame la maire. Lors de la réunion de la commission ad hoc ZAC de la Grande Plaine du 5 mars dernier, je vous ai demandé de me transmettre le cahier des charges de la consultation remis au candidat à la concession de cette ZAC. À ce jour, je reste dans l'attente de la réception de ce document. Alors, je ne sais pas si c'est un traitement de faveur réservé au seul élu de l'opposition qui siège dans cette commission, mais il s'agit d'un manquement grave à vos obligations. En effet, cette commission s'apparente à une commission d'appel d'offres ou à une commission de délégation de services publics. Les commissaires doivent donc pouvoir avoir accès à l'ensemble des pièces de la consultation, que ce soit les documents de cahier des charges ou les réponses des candidats, puisqu'ils doivent émettre un avis sur le choix donc du candidat qui sera retenu. Et si cette obstruction devait se poursuivre, je n'aurai pas d'autre choix cette fois que de saisir non pas le préfet mais le tribunal administratif. Mais peut-être s'agit-il, comme vous nous répondez souvent, d'un oubli de vos services.
Vous avez effectivement souhaité obtenir la communication du projet de cahier des charges. Ça nous montre votre vigilance sur les grands projets d'aménagement de la commune.
C'est plus un projet, c'est un cahier des charges.
Et je tiens à souligner que je partage pleinement l'exigence de transparence et d'information à laquelle ont droit les membres du conseil municipal. Cela étant, je me dois de rappeler que le cadre juridique actuel encadre strictement la communication des documents administratifs. En l'occurrence, un projet de cahier des charges constitue un document préparatoire à une décision administrative et à ce titre, il n'est pas communicable tant que la procédure d'élaboration n'est pas finalisée, conformément à l'article L311-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Cette règle vise à garantir la sérénité de l'instruction, à éviter toute interférence prématurée et à préserver l'intérêt général. Elle est d'ailleurs confirmée de manière constante par la CADA, notamment dans son avis numéro 2011-0441 du 10 mars 2011. Par ailleurs, votre question touche à un principe fondamental de notre vie démocratique locale, le droit à l'information des élus. Ce droit est bien entendu pleinement reconnu et garanti dans notre fonctionnement municipal. L'article L2121-13 du CGCT précise que chaque conseiller municipal doit pouvoir être informé des affaires qui font l'objet d'une délibération. C'est dans ce cadre que le projet de cahier des charges de la ZAC de la Grande Plaine vous sera communiqué, en temps utile, avec l'ensemble des pièces nécessaires à une prise de décision éclairée. Cette transparence sera d'ailleurs assurée dans le respect des dispositions prévues à l'article L2121-12 du CGCT, avec la transmission d'une note explicative de synthèse et la possibilité de consulter le projet de contrat ou de marché à la mairie, comme le prévoit notre règlement intérieur. Je vous confirme donc que les documents nécessaires seront bien communiqués à l'ensemble des élus dès lors que ce dossier sera inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal. Nous serons alors dans le cadre prévu par la loi pour garantir un débat démocratique, serein et constructif.
Une confusion importante entre les citoyens, les conseillers municipaux et les membres de la commission et les commissaires. Donc les articles que vous citez ne concernent pas les commissaires.
Question suivante, Madame Lagoutte. Monsieur Boudet.
Madame la maire, lors de la réunion publique sur les travaux de la rue Aristide Briand et de la rue Pasteur, vous avez indiqué vouloir un changement de sens de circulation de la rue. Ainsi, vous souhaitez changer le sens actuel de circulation pour faire passer la rue Aristide-Briand en sens unique, de la pharmacie au monument. Suite aux remarques des commerçants et des riverains présents lors de la réunion publique qui ont signifié leur désaccord concernant un changement de sens de circulation, pouvez-vous nous indiquer quel sera le sens de circulation de la rue Aristide-Briand après les travaux ?
Je vous remercie, Monsieur Boudet, pour votre question. Donc, tout d'abord, je précise que lors de la réunion publique que nous avons souhaité organiser et qui s'est tenue ici même pour recueillir l'avis des riverains et des commerçants du centre-ville, mais aussi et plus généralement de tous les citoyens souhaitant intervenir, nous avons annoncé qu'aucune décision n'était arrêtée d'avance. Le sens de la concertation était bien de laisser le débat ouvert. La solution technique proposée par notre assistant maîtrise d'ouvrage et nos services, qui a été présentée lors de cette réunion publique, avec les élus également, bien sûr, Madame Degand, précisait un sens unique, et puis Monsieur Bruno, parce qu'il y a un gros sujet sur l'assainissement, et Monsieur Houllier, donc proposait un sens unique de la rue du Maréchal de Lattes de Tassigny vers l'avenue Foch. Je ne vous cache pas qu'au sein même du conseil municipal, les avis étaient partagés, d'où l'importance de recueillir les avis de la population et des commerçants. Il est ressorti de cette réunion une inquiétude, c'était qu'un sens unique sur toute la rue Aristide-Briand, depuis la rue du Maréchal de Lattes vers l'avenue Foch, risquerait d'inciter les conducteurs à accélérer dangereusement pour passer au feu tricolore. Il en est ressorti également une demande, c'est de permettre l'accès à la rue Pasteur par la rue Aristide-Briand pour les véhicules venant de l'avenue Foch. Cette demande est particulièrement forte de la part des commerçants du centre-ville. Par ailleurs, le maintien du double sens sur la portion nord de la rue Aristide-Briand, c'est-à-dire tel que c'est actuellement, ne permet pas de réaliser des deux côtés de la voie des trottoirs aux normes PMR. Or, vous le savez, la rue Aristide-Briand est extrêmement fréquentée par les piétons. C'est un axe de circulation majeur pour accéder au centre-ville, mais aussi pour se rendre à la gare ou au CFA. Et nous devons, dans le cadre de ces travaux, améliorer la circulation pédestre, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Il apparaît donc que la solution qui permet de répondre à ces différents paramètres, c'est un double sens unique. Sens unique de Foch jusqu'à Pasteur, et sens unique de Delattre jusqu'à Pasteur. Les deux convergents vers la rue Pasteur. Vous m'avez suivi ? Deux sens uniques face à face. Donc c'est actuellement vers cette solution que nous nous dirigeons, sachant que nous avons encore un mois ou deux avant d'arrêter définitivement cet arbitrage. Pour votre information à tous, les travaux débuteront à compter du 14 avril, avec une première phase qui portera sur les réseaux, l'eau, l'assainissement, l'électricité, etc., et qui s'étendra jusqu'à la fin de l'été, puis une seconde phase consacrée à la voirie, qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'automne. Monsieur, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Monsieur Bruno, sur le...
Oui, bah, la première partie, c'est l'étude des réseaux, avec des, on va pas se faire des passages caméras. Donc ça va durer 3 jours là, sur le mois d'avril et ensuite on chemise les réseaux et on étanchéifie tous les réseaux avec les branchements et on refait une partie des branchements aussi, voilà. Donc un gros travaux, enfin des gros travaux de terrassement en partie de trottoir.
Merci Monsieur Bruno.
Juste un tout petit point complémentaire financier, 1 140 000 euros en toute taxe pour la partie voirie, puisque l'assainissement ne bénéficie pas de subvention. Pour la partie voirie, c'est 214 022 euros de subvention via le CAR.
Contrat d'aménagement régional qui sera signé la semaine prochaine. Après-demain, autant pour moi, le 11. Non, après-demain, on est mercredi. En présence de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région en charge de l'aménagement. Puisque c'est effectivement la région qui nous accompagne, qui est notre partenaire financier, notre financeur sur ce projet.
Question suivante, Madame Lagoutte.
Madame la maire, nous avons par courrier recommandé avec accusé de réception réitéré notre demande de mise à disposition gracieuse d'une salle municipale, en particulier celle du Centre Louis Aragon, afin d'organiser une réunion publique et rendre compte de notre activité auprès des citoyens. Et pourtant, nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse de votre part. Cela fait maintenant trop longtemps que cette situation dure. Nous ne pouvons plus accepter que l'opposition municipale soit ainsi entravée dans l'exercice de son mandat démocratique. Vous nous avez opposé un premier refus, indiquant que les salles municipales ne peuvent être mises à disposition à titre gracieux durant la période hivernale, soit du 15 octobre au 15 avril. Nous dénonçons d'ailleurs le traitement différencié que nous subissons. Vous-même, Madame la maire, ainsi que la majorité municipale, organisez régulièrement des réunions auprès des Nangiciens sans aucune restriction. Cette inégalité de traitement est une atteinte directe au principe républicain. Puis, nous avons constaté que cette même salle a été attribuée à un petit groupe de 6 personnes pour le lundi 24 mars, date de notre première demande. Face à l'ensemble des salles municipales dont dispose la ville, nous nous interrogeons. Pourquoi n'a-t-il pas été possible de proposer une autre salle à ce groupe, alors, afin de nous permettre d'organiser notre réunion publique ? Enfin, Madame Galochet avait soulevé une question importante lors d'un précédent conseil municipal. En effet, dans votre décision numéro 2023-360, vous avez établi que les salles municipales ne seraient mises à disposition des partis politiques gratuitement qu'entre le 16 avril et le 14 octobre 2025. Nous vous demandons donc, que comptez-vous faire pour garantir le bon déroulement de la vie démocratique en dehors de cette période ? Que se passera-t-il pour les élections municipales 2026 à venir, notamment en hiver, en pleine campagne ? Les listes qui se présenteront devront avoir l'assurance de pouvoir tenir des réunions publiques de façon équitable et en nombre suffisant. Nous vous demandons donc de bien vouloir modifier votre décision en ce sens. En attendant, nous ne pouvons plus tolérer ce blocage démocratique. Quand allez-vous enfin nous accorder une salle pour tenir une réunion publique ? Pensez-vous qu'il soit acceptable dans une démocratie locale de priver l'opposition de son droit à s'exprimer librement ?
Alors, je vous remercie de votre question. Je vais essayer de répondre à tous les points que vous soulevez. Tout d'abord, pour la clarté de la réponse, je vous cite « Vous-même, Madame le maire, ainsi que la majorité municipale, organisez régulièrement des réunions auprès des Nangiciens sans aucune restriction. Cette inégalité de traitement est une atteinte directe au principe républicain. » Vous confondez, Madame Lagoutte, ce qui a trait à la communication de la commune, au traitement des affaires de la ville, et ce qui a trait à la communication politique du groupe majoritaire que je dirige. Lorsque nous organisons, par exemple, le 10 février, nous venons d'en parler, une réunion publique d'information sur les travaux de la rue Aristide-Briand, il s'agit d'une communication institutionnelle qui fait partie des procédures de concertation avec la population. Concertation préconisée et d'ailleurs rendue parfois obligatoire par les textes. Ce n'est pas une communication du groupe majoritaire. Ce n'est pas une communication politique. Ce genre de réunion publique est d'ordre institutionnel et je m'étonne que vous puissiez contester cette information donnée à nos concitoyens et cette démarche de démocratie participative. Si vous parlez de réunion d'ordre politique, je ne vois pas bien quelle réunion publique d'information notre groupe de majorité municipale aurait tenu. Il n'y en a pas eu, Madame Lagoutte. Alors, s'il vous plaît, n'employez pas les termes d'inégalité de traitement ni d'atteinte aux principes républicains. Ce n'est pas exact. C'est même une outrance qui n'est pas de votre niveau. Je reviens à votre demande plus spécifique de mise à disposition gracieuse d'une salle, en particulier le Centre Aragon, pour y organiser une réunion publique et rendre compte de votre activité auprès de nos concitoyens. Votre demande, comme toutes les autres demandes, se doit de respecter l'arrêté municipal du 16 janvier 2023, adopté ici même. Celui-ci complétait les tarifs votés lors du conseil municipal du 25 janvier 2021 en ajoutant, hors période hivernale, ouvrez les guillemets, la gratuité des réservations de l'espace mezzanine et de la galerie d'exposition située en salle Dulcy September et celle de la bergerie pour les organisations syndicales, les associations et partis politiques. Vous voyez bien qu'il n'y a donc aucune volonté de restreindre le droit d'expression démocratique puisque c'était prévu dans la délibération. Reste en effet que cette gratuité ne s'applique pas en période hivernale. Puisque, je le rappelle, l'objectif était de dissuader de l'utilisation des salles municipales pour éviter des coûts trop importants pour la collectivité après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Lorsque nous avons adopté ce règlement, et j'ai ici les échanges tenus à ce même conseil municipal, seuls Mme Galochet et M. Tchikaya sont intervenus dans la discussion. Mais nullement, la question des réunions politiques en période hivernale n'a été soulevée. Donc, dans le respect de ce règlement, les services vous ont indiqué, à la suite de votre demande, que si vous souhaitiez disposer gratuitement d'une salle, il fallait que ce soit en dehors de la période hivernale, c'est-à-dire après le 14 avril. Je vous renvoie à l'email qui vous a été adressé par les services le 11 février dernier. En application du règlement, les services ne vous pouvaient pas vous faire une autre réponse. Vous évoquez dans votre question le refus qui vous a été fait pour le prêt de la salle Louis Aragon le 24 mars dernier. Il se trouve que dans le cadre d'une convention annuelle, c'est l'association théâtrale Le Nouveau Miroir qui occupe cette salle tous les lundis, donc le 24 mars, comme les autres lundis. J'avoue qu'il n'y avait que 6 personnes dans la salle. Je vous trouve quelque peu méprisante vis-à-vis de l'activité régulière d'une association qui est liée avec une convention annuelle et qui donc occupe la salle tous les lundis. Donc les services vous ont légitimement répondu « la salle n'est pas disponible ». Il n'y a aucune volonté d'obstruction. Simplement, nous sommes liés avec l'association du Nouveau Miroir qui répète et qui utilise la salle tous les lundis. Nous sommes beaucoup plus respectueux du pluralisme et du droit d'expression que votre groupe ne l'a jamais été lorsqu'il était aux commandes de cette ville. À vous croire, on briderait l'opposition. Vous bride-t-on lorsque l'on prête gratuitement ce vendredi 25 avril la salle Louis Aragon à l'association de la Brinangicienne citoyenne et solidaire, qui est l'un des avatars à travers lesquels vous menez votre action politique? Le règlement que nous avons adopté ensemble en 2023, je vous le relis, prévoit dans son article 2 pour les organisations syndicales, associations, partis politiques. La bergerie ou la salle Dulcy September, une fois par an maximum, pendant chaque période de campagne. Donc il est bien prévu que cette salle, par exemple, soit attribuée pour chaque période de campagne, sous-entendu campagne du premier tour, campagne du second tour. Pour les autres, c'est une fois par mois, en période de gratuité, donc jusqu'au 14 octobre. Et la salle Dulcy September, pour... mais Madame Lagoutte, ne vous inquiétez pas, tous les candidats seront traités de la même manière. C'est ce que nous avons voté. Cela dit, j'espère que ça va vous réjouir, nos services travaillent actuellement pour une refonte des tarifs de location de salles. Ce dossier n'a pas pu être présenté ce soir parce qu'il n'était pas encore totalement finalisé, mais il devrait l'être pour le prochain conseil municipal. Et donc, nous vous proposerons sans doute de compléter et de prévoir pour la période hivernale une fois la salle Aragon, une fois la salle du 6 septembre pour chaque période de campagne.
C'est vraiment de l'obstruction. Vraiment, c'est anti-républicain. Moi, je vous le dis, Madame Le Bouter,
mais
franchement,
Madame Lagoutte, vous l'avez.
Ce n'est pas digne
d'un maire. Vous avez voté contre, mais jamais vous n'avez soulevé le sujet.
Bien entendu qu'on a.
Qu'est-ce qui est anti-républicain ?
Nous sommes des élus comme vous. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes donc pas concernés par cette délibération. Voilà, c'est tout. Il devrait normalement nous être possible de rendre compte aux citoyens de notre activité avec la mise à disposition à titre gracieux d'une salle dans cette ville. C'est tout. C'est au titre de d'autres mandats d'élu. J'ai été élu pendant 13 ans dans une autre assemblée où l'opposition était autrement traitée, Madame Le Bouter.
Madame Rapaille, toi qui as été l'opposition, tu veux compléter ? Non, c'est pas utile. Écoutez, vous nous avez posé une question.
Vous dire quand est-ce vous qu'on a refusé une salle à l'opposition pendant mon mandat.
Non, mais par contre, dites-nous, vous, quand nous avons tenu une réunion politique ?
Non, mais quand ?
Non, mais répondez-moi.
Je vais vous donner un exemple. Vous faites les vœux du maire. Ce sont vos vœux. Vous faites un bilan.
Vous
activité.
Voudriez qu'on vous prête la salle pour faire vos vœux ?
Non, pas du tout.
Mais je vous invite sur scène en plus, Madame Lagoutte, et vous voulez pas venir ?
Oui, bah oui. Non, ça certainement. Je viendrai pas sur scène avec votre équipe, ça c'est certain. On ne partage pas la même vision de Nangy, donc je ne vais pas partager votre discours. Mais vous faites votre bilan. Vous l'avez fait. Je l'ai entendu. Vous en avez profité. Pourquoi nous, on ne peut pas faire le bilan de notre activité d'élu ?
Parce que vous n'êtes
mais
pas majoritaire.
Mais il n'y a qu'à Nangy que ça se passe comme ça. Arrêtez.
Mais ce sont donc effectivement les droits de l'opposition qui sont
quand même, il y a un minimum de respect par rapport à l'opposition.
Mais vos droits sont respectés, Madame Lagoutte ?
Non, pas du tout. Les droits ne sont pas respectés. Nos droits ne sont pas respectés. Vous devriez nous donner une salle pour pouvoir qu'on puisse exercer notre mandat d'élu. On ne peut même pas l'exercer
Madame
auprès
Lagoutte,
des citoyens.
Madame Lagoutte,
vous trouvez que c'est normal ?
Madame Lagoutte, nous n'avons pas refusé le prêt de la salle. Vous nous avez demandé une date pour laquelle la salle n'était pas disponible.
On vous a demandé après ce mail plusieurs dates et nous n'avons pas eu de réponse. Donc, de toute façon, vous ne voulez pas nous prêter de ça, nous l'avons bien compris.
Ça,
mais franchement, ce n'est pas digne d'un maire.
Vous avez posé une question, nous vous avons répondu. Le conseil municipal est clos, je vous remercie.
Non, c'est pas la mauvaise.
Et je vous invite à partager le buffet de l'amitié.
C'est pas possible, il manque des prises. Donc j'en ai racheté et j'y me manque celle-là.